Bonjour à toutes et à tous. Merci à la pour la première partie du culte. Je pose la question, comment vous allez ce matin? Bien, bien. Vous ajoutez grâce à Dieu. J'ai posé la question autrement, dimanche dernier, je ne sais plus quel dimanche, comment ça va, à quelqu'un qui m'a dit, ça c'est neutre, on ne dit pas comment ça va. J'ai réfléchi sur la question. Mais quand on dit comment tu vas, tu sais qui? À la question comment ça va, ou comment tu vas, les réponses sont diverses. On peut dire bien, bien, très bien, bien avec la grâce de Dieu. Mais il y a pire, hein? Vous avez déjà observé? Comment ça va? Ou bien il y a juste des larmes qui apparaissent au niveau des yeux. Et ça veut tout dire. On a commencé ce culte ce matin sans même se consulter par saluer quelqu'un au nom de Jésus. Aux Antilles, quand on chante ce cantique, saluer quelqu'un au nom de Jésus, on s'embrasse. Mais souvent, vous observez, vous posez la question comment tu vas, mais vous avez vu quelqu'un d'autre passer, vous avez dit, hey, j'ai besoin de te voir. Vous n'attendez pas la réponse de l'autre qui a besoin justement de vous dire ça ne va pas. Est-ce qu'on est assez honnête pour dire que ça ne va pas? Non, frère, non, sœur, ça ne va pas ce matin. J'ai envie qu'on prie avec moi. J'ai envie que tu m'écoutes. Vous comprenez ce que je dis? Et souvent, dans nos familles, derrière les sourires que nous affichons, il se déroule beaucoup de drames. Et même dans nos foyers chrétiens. Et on est loin d'y penser parce que, bon, on n'a pas le temps de s'occuper de l'autre. Accueillez-vous les uns les autres, oui, mais chacun ses problèmes. Est-ce que je mens? Mais l'Éternel nous attire l'attention sur cette souffrance parfois silencieuse qui est là. Et elle existe partout, sous différentes formes. Peut-être physique, morale, spirituelle, mais elle est là. Profonde. Il n'y a pas plus grande souffrance que cette solitude que j'affiche et je ne dis rien, je viens, je repars, je prends, je repars. Mais personne ne me voit. Et je répète, est-ce que nous avons suffisamment de cran, d'audace pour dire non, ça ne va pas? Je vous invite dans le deuxième livre des rois, deux rois, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 4. Il y a une histoire bien connue, l'histoire de la Tsunamite. Ne me demandez pas son prénom, ce n'est pas important. Autrement, le texte nous l'aurait dit. Et observez bien que le texte ne dit pas, l'auteur ne dit pas le nom de l'enfant, le nom du mari. C'est un peu comme la femme samaritaine, comme la femme de Sarepta. Il y a beaucoup d'anonymat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. N'est-ce pas? Un long passage, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Je lirai dans la version La Colombe jusqu'au verset 37, parce que c'est une seule et unique histoire. Et il se passe un drame dans la vie d'une dame, cette Tsunamite. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à nous désolidariser de ce que nous appelons notre souffrance, notre douleur, notre maladie. Elle n'est pas à nous. Vous comprenez ce que je dis? Nous désolidariser de la douleur, de la souffrance, de la maladie. Celle qui s'est accrochée à nous comme une sangsue. C'est un mal. Et beaucoup vivent un mal-être en pensant qu'à force de le caresser, cajoler, mais c'est à moi. Dépose. Se désolidariser pour se focaliser sur Dieu. Un jour, Élisée le prophète, on va voir plus tard, passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Et ce n'est pas jeté sur lui comme ça, hein, il avait déjà observé, hein, comprenez bien. Et dès lors, toutes les fois qu'il passait par Sunem, il se retirait chez elle pour manger. La femme n'était pas seule. Hein. Verset 9, elle dit à son mari. Il n'a pas pris la décision comme ça. Vous savez, ça se fait de nos jours, on dit, oh là là, elle cherche quelque chose. Hein. Ce n'est pas le cas. Vous allez voir, c'est une dame de haut rang, de haute condition, une femme respectueuse. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Or, Élisée passait, il ne venait pas chez la dame, chez le couple, il passait. Mais maintenant, désormais, ça va être chez lui. Vous avez déjà invité du monde comme ça chez vous. Tu es chez toi et n'oublie pas que tu es chez moi. Pardon, verset 11. Un jour, Élisée arriva là et il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, mais que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi, pour toi au roi, pardon, ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point d'un fils, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, et il dit à son père, oh ma tête. Et le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. C'est terrible, hein? Verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle n'alla pas dans sa chambre. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu. Pardon. Et je reviens. Et il dit, mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, t'inquiète. Tout va bien, tout baigne. Vous savez, quand on dit ça va, oui, ça va bien. C'est pas vrai, hein? Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Et quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, tiens, voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Tout va bien? Ton mari aussi va-t-il bien? Et l'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. C'est un autre bien là. Hein? Parce qu'elle va dire autre chose plus tard. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, mais non, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et ça, je suis gentil hein, quand je le dis comme ça. Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends ton bâton, mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il revint donc à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit ne s'est pas réveillé. Il dort. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort. Entre se réveiller et être mort, il y a un abîme. Hein? Verset 33, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel, c'est-à-dire lui et le petit. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur la bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Ne demandez pas pourquoi il a fait ça. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua sept fois, ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre elle, prit son fils et sortit. Vous aurez posé beaucoup de questions à Élisée, hein? Mais au lieu de crier à l'aide, mon fils est mort, elle fit quelque chose de très simple. Elle mit l'enfant sur la couche d'Élisée est partie. Il faut peut-être replacer l'histoire dans son contexte. Nous sommes au 9e siècle du temps des rois, Judas, d'Israël, au lendemain du schisme après le roi Salomon. Vous suivez, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et au nord comme au sud, les rois se disputent. C'est la guerre. Ils se succèdent après des coups d'État. Et comme l'un des premiers rois d'Israël, Jéroboam, avait établi d'autres sanctuaires, donc l'idolâtrie s'est installée. Et au fur et à mesure, l'idolâtrie a pris son ancrage et le peuple vivait une période difficile, à la fois de sécheresse spirituelle et puis de sécheresse tout court, conséquence de leur désobéissance. Et les prophètes qui se succédaient, Élie, Élisée, entre autres, étaient de grande classe, certes, parce qu'ils avaient possibilité d'entrer en présence du roi, à la cour du roi, souvenez-vous du roi, du prophète Ésaïe. Et ils avaient donc, j'ai envie de dire, mandat. Le mont Carmel, où demeurait Élisée, était connu pour ses nombreux sacrifices à Baal. Vous connaissez l'histoire avec Akab, Jézabel, Élie, si vous êtes des lecteurs de la Bible. Mais Sunem se trouvait à 32 kilomètres du mont Carmel. Donc c'est un passage obligé pour Élisée quand il allait dans la vallée du Jourdain, dans l'école des prophètes, si vous lisez l'histoire. Il y avait une école de prophètes qu'Élisée avait laissée, et puis et Élisée avait pris la suite. C'est ainsi qu'on connaît un petit peu l'histoire de cette dame, Tsunamite. Et c'est là qu'elle intervient. Elle dit, mais non, faire 60 kilomètres comme ça, aller-retour, je ne sais pas si vous imaginez entre Créteil et où, je ne sais pas. Donc, il y a une pause. Et elle dit à son mari, observez que cette dame de grande classe ne prend pas de décision toute seule. Et il consulte son mari. Et son mari, d'accord avec elle, dit, OK, faisons une chambre haute. Le texte ne dit pas si cette femme était dans une grande souffrance. Nous savons au moins trois choses. Elle était de Sunem. Elle était distinguée, une grande dame, comme on dit aujourd'hui chez nous. Elle était probablement jeune parce qu'on fait une référence par rapport à son mari qui était vieux. Mais tout est relatif, hein? Vous me regardez, vous dites, je suis jeune. Et pour d'autres, je suis vieux. N'est-ce pas? D'accord. Je ne vais pas vous demander où vous me classez. Mais à partir de là, on sait que c'est un couple qui fonctionnait. Il n'y a pas question d'âge. On sait une quatrième chose de cette femme. Elle n'avait pas de fils. Elle n'avait pas d'enfant. Vous savez que c'est tout un honneur pour une femme d'être aimée, n'est-ce pas? Allô? Et de pouvoir un jour se dire, je me marie. J'ai une à la maison, tous les jours, elle nous répète ça comme si on n'était pas au courant. Et puis vient le jour où enfin elle découvre quelqu'un, un monsieur qui l'intéresse, et puis elle devient enceinte. Et l'enfant naît, vous savez, un enfant, ça apporte beaucoup de joie dans une maison, n'est-ce pas? Allô? Même quand l'enfant est insupportable, ça court partout, ça mange tout ce qu'il y a, ça casse tout. Mais c'est mon fils. J'ai connu un comme ça à 8 ans, il était terrible. Et son père m'a regardé, il a regardé, il a souri, il m'a dit, j'étais pire quand j'étais jeune. Vous savez, le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. C'est ce qu'on dit. Chien pas qu'à faire chatte. D'accord. Mais un jour, l'enfant grandit et, comme dans notre texte, il est frappé par la maladie et il meurt. C'est terrible, hein? Dieu est celui qui donne et Dieu est celui qui reprend. Mais je connais un seul qui a pu dire ça. C'était Job. Et donc, même quand Dieu frappe comme ça, on dit, mais c'est pas possible. Et pourtant. Mais vous savez que la pire souffrance, c'est quand la femme est la seule à porter le fardeau, bien que son mari soit présent. Il n'y a pas pire souffrance. Hein? Autant ne pas avoir un mari à la maison. Hein? Je ne suis pas en train d'assassiner les hommes, hein, parce qu'il y a... Il y a des hommes qui sont forts et qui sont présents. Mais la souffrance chez la femme, elle est difficilement perceptible. Et même si son mari était vieux, c'est pourquoi je veux laisser le verset 19 pour le groupe d'hommes, pour le mois prochain, quand on va étudier la parentalité. L'enfant dit, je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et il dit, eh, emmène pour sa mère. Ça veut dire que la mère est médecin, elle est missionnaire, elle est femme de ménage, elle est repasseuse, elle est tout ce que vous voulez. Allô? Et l'homme dit, ah, mais c'est ton travail. C'est le travail de la maman ou le travail des deux? Il n'y a pas d'homme ici. Défendez-vous, les gars. Mais dans la vie, on dit, ça va aller. Ça ira mieux demain, et puis il y a pire. C'est pas vrai? Mais oui, il y a pire. Mais ça coûte cher, hein, pour que ça aille mieux. Parce qu'il faut débourser. Et dans la vie de chacun de nous, nous avons des méthodes et nous voulons nous focaliser sur ça pour dire j'ai l'habitude. On ne peut pas tout comparer dans la vie. Ce que tu as vécu, ce n'est pas forcément ce que je vis. Et nous aimons faire des comparaisons. Je sais. Il n'y a pas un milieu où il n'y a pas beaucoup de médecins, sinon autour de nous, quand on dit j'ai mal là, ah, je sais, prends ci, prends ça, prends ci, prends ça. Je suis arrivé au travail cette semaine et il y avait un collègue là, il me dit, ah, j'ai mal à la tête parce que je me suis baissé là pour regarder mon portable et je me suis levé et j'ai mal à la tête. J'ai dit, bon, eh bien, ressaisis-toi, respire profondément. Il m'a dit, si c'était chez moi, on m'aurait déjà dit, c'est l'attention, prends ceci, prends cela. Je dis, mais oui. Mais ce n'est pas l'attention, tu n'as pas l'attention, parce qu'il rigole, il est plié en deux, parce qu'il me dit, il y a plein trop de médecins chez moi. Ah, vous avez connu ça, si vous avez eu un enfant malade. Les versets 8 à 10 mettent en évidence deux dons particuliers qui nous manquent terriblement dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que Dieu a montré à cette femme chez l'homme de Dieu? Elle ne savait pas que c'était un homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu montre aux hommes chez nous, de voir chez nous? Vous ne savez pas. Tant que l'autre n'a pas dit. N'est-ce pas? J'ai le témoignage d'un frère, une fois, il m'a dit, avant tout le monde m'appelait vagabond, voyou. Jusqu'au jour où on lui a dit, t'as changé, t'es plus le même. Et là, il avait fondu en larmes. On ne lui avait jamais dit ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que l'autre à côté voit chez toi? Et qu'est-ce que Dieu lui permet de voir chez toi? Et cet esprit de discernement n'est pas donné à tous. C'est un don. Et Dieu veut que nous cherchions tous les dons, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas tous les dons, mais je rappelle ici qu'un don, c'est fait pour l'utilité commune. Et quand j'ai un don, je m'empresse de m'enorgueillir. Attention, l'intuition, l'impression, ce n'est pas le discernement. Parce que l'impression n'est pas réalité. Je peux me tromper. La femme ici ne s'était pas trompée, hein, parce que c'était bien un homme de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des apôtres, des prophètes et de tous les hommes de Dieu qui se lèvent. Hein. Attention, tout ce qui brille n'est pas... C'est connu, mais on tombe dedans quand même. Deuxième don, c'est l'hospitalité. Cette femme, avec l'aide de son mari, l'appui de son mari, exerce l'hospitalité. Quelque chose qui a disparu chez nous. Ou peut-être qui n'a jamais existé. Pourquoi? J'ai déjà donné, merci. Vous n'avez jamais dit ça? Ouf! J'ai déjà assez donné. Parce qu'on a hébergé une personne qui nous a trahis. Il paye pour tout le monde. Est-ce que Dieu dit ça? C'est quelque chose de délicat, je suis d'accord. Et ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, s'il fallait, comme dit Patricia, qu'il y ait des témoignages, on ne se partirait pas d'ici. Mais comme on dit, chair chaudée, quand elle est froide. Je ne fais plus ça, mais la Bible n'a pas dit qu'il ne faut plus faire ça. La Bible dit exercer l'hospitalité et certains ont logé des anges. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te permet de faire là en hébergeant X, Y, Z. Mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Le discernement et l'hospitalité devraient être propres aux chrétiens. Et nous constatons que ce sont les non-chrétiens qui exercent le plus ces choses-là autour de nous et qui nous le reprochent. Faut-il forcément attendre de la reconnaissance à chaque service rendu? Est-ce que la femme a demandé quelque chose? Est-ce qu'elle perturbait le prophète, l'homme de Dieu? Je ne pense pas. Mais le Seigneur dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc faisons-le autant de fois que le Seigneur met sur notre cœur de le faire, n'est-ce pas? 1 Pierre, chapitre 4, versets 9 et 10. Je ne sais pas si je l'ai donné. 1 Pierre, chapitre 4, versets 9 et 10. Je lis toujours dans la version de la Colombe. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Et verset 10, puisque chacun a reçu un don, à nous de découvrir notre don, n'est-ce pas? Mettez ce don au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Chacun a reçu un don. Mais si tu ne sais pas quel don, prie le Seigneur, il va te le révéler. N'est-ce pas? Parenthèse fermée. Une autre question se pose à ce stade. Qu'est-ce que Dieu a permis à cette femme, de voir chez Élisée au point que Élisée, cette femme dit à son mari, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Le mari aurait pu s'y opposer. Mais c'est que cette femme a suffisamment de conviction ou bien Dieu a convaincu aussi le mari. Les deux marchent ensemble. Et Dieu sait comment il peut toucher le cœur des uns et des autres pour ses serviteurs et servantes que nous sommes. Est-ce que Élisée avait discerné chez la femme une souffrance? On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Néanmoins, peut-être en guise de reconnaissance, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Cette femme n'est pas ambitieuse. Elle dit, oh. Je vis au milieu de mon peuple. Ça veut dire quoi? Tout le monde ici me connaît. Je connais tout le monde. Je n'ai besoin de rien. On peut vouloir dire ça. En même temps, ça peut vouloir dire, t'es prophète, t'es homme de Dieu, tu vas vouloir me dire quelque chose. J'ai déjà prié, ça va. Et même Dieu, parfois, reste silencieux. On a jeûné, on a prié, mais on n'a rien reçu. Et puis là, je monte. Et puis c'est bon, là, mon mari est vieux de toute façon. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Allô? Est-ce que Dieu répond toujours à l'impossible par le possible? Si nous nous mettons sous un joug étranger, comptez pas sur Dieu, puisqu'il nous a donné un ordre, ou des ordres. Mais Élisée est en train de dire à cette femme, puisque Géasi lui révèle qu'elle n'a pas de fils, qu'elle n'a pas d'enfant, ok, c'est bon, j'ai trouvé, l'année prochaine, à la même heure, tu vas enfanter. Tu vas tenir dans ton bras, tes bras un fils. Et il dit, mais non. Il n'a pas dit, mais non, frère, mais bon, mais non. Laisse tomber, ça va, j'ai déjà donné aussi. J'ai déjà prié, c'est pas possible. J'ai regardé dans l'histoire de la Bible, il y a au moins 7 naissances miraculeuses. Avec des maris qui étaient déjà fatigués et des épouses fatiguées aussi. Excepté Marie, mère de Jésus. Donc, c'est possible avec Dieu, n'est-ce pas? Rien n'est étonnant de sa part. Mais n'allons pas nous mettre sous un joug étranger pour dire si le Seigneur va rendre possible l'impossible. Seigneur, bénis ma bêtise. Dieu nous aide à comprendre ici que la femme ne s'était pas focalisée sur sa situation, sur sa souffrance. Elle avait décidé de tout remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant, l'occasion vient là et de manière inopportune et Élisée dit, l'année prochaine, tu vas porter un bébé. Elle ne s'était pas trompée, hein? Parce que c'est un vrai symptôme de Dieu. Tous les symptômes de Dieu n'apportent pas forcément de bonnes nouvelles et des promesses qui tiennent. C'est pourquoi il faut faire attention. L'évangile de la prospérité là et autres. On peut prospérer, mais quand même, restons dans les rails. L'homme dit, faut-il parler au roi? J'ai besoin de rien. Te fatigue pas. Elle ne parle pas de sa souffrance intérieure. Ce n'est pas facile, mes amis, de parler de sa souffrance intérieure. À qui? Et qu'est-ce qu'il pourra faire? J'ai déjà parlé à X, Y, et c'est bon, j'ai été mis sur le journal de l'église, c'est bon. Vous connaissez ça, des réponses comme ça. Maintenant, je garde mes affaires. Ce sont mes affaires. Non, ce n'est pas tes affaires. Dépose-le parce que tu es dans une famille, tu es dans une communauté, et Dieu nous invite à porter les fardeaux les uns les autres. En principe. Allô? Ah oui, je vois votre silence, ça dit long. Hein? J'ai déjà dit, j'ai déjà donné. J'ai déjà jeûné, ça va, Dieu même ne répond pas. Mais on dit, tout va bien. Tout va bien, merci, avec la grâce de Dieu. Tout va pas bien. Tout n'allait pas forcément chez cette tsunamite. Et Sarah avait ri, vous vous souvenez? Les parents de Samson ont dit, on veut un signe. On veut un deuxième signe, comme quoi ce que tu dirais est vrai. Et Zacharie, il a fallu que l'ange de l'Éternel lui... C'est pas simple. Et la foi comporte une notion de doute. Pas vrai? Ah, c'est quand on est couché sur un lit, on se dit, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que je vais être guéri? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que... Et on vient douter. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Les médecins ne savent pas ce que tu as. Et pour revenir à cet enfant, son père ne sait pas ce qu'il a. Il est resté à peine une heure, donc ce n'est pas une insolation. Vous savez, j'ai failli perdre ma fille aînée comme ça. Hein? Je l'ai récupérée de la crèche, elle avait 3-4 mois. Je l'ai couchée par terre, elle dort parce qu'elle dormait. Elle était... Et quand ma femme est rentrée, elle m'a dit, mais t'as pas vu que l'enfant a la fièvre? J'ai dit, mais non, il fait chaud. L'enfant faisait une déshydratation. 48 heures à l'hôpital, et puis on l'a réhydraté, et puis elle est en vie aujourd'hui. Mais où est-ce qu'il passait? Je disais ce matin, derrière un homme, il faut toujours une femme. Eh bien, j'ai pas entendu l'amen. Mais c'est vrai. Les hommes ne voient pas ce que les femmes voient, et vice-versa. Mais Dieu nous invite à collaborer, à dialoguer, à lui faire confiance. Dieu peut rendre possible l'impossible. Attention. Mais nous devons faire attention à tout ce qui bouge autour de nous et tout ce qu'on nous propose. Revenons au texte. La tsunamite, en proie à une douleur profonde, ne laisse rien paraître à l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Elle fait preuve, je dirais, d'une foi exceptionnelle, assortie d'une paix, je dirais, surnaturelle. Elle contrôle la chose. Et j'ai envie de dire, à ce stade, souvent dans des situations difficiles, les femmes sont plus fortes que les hommes. Les femmes contrôlent, maîtrisent là où les hommes paniquent. Ça dépend des situations. Mais elle ne dit rien autour d'elle, pas plus qu'à son vieux mari, parce qu'elle a eu deux cas sur le dos. Mais oui. Mais elle dit, t'inquiète, tout va bien. Elle veut le protéger. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, vous connaissez par cœur, dit « Ne vous inquiétez de rien. » N'est-ce pas? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Dieu a donné la paix à cette femme. Elle contrôle la situation. Jusqu'à un certain moment, on contrôle avant de craquer. Parce que face à la mort, vous savez, il y a plusieurs stades. On dit qu'il y a 5 stades Elle n'est pas dans le déni. Mais elle est dans une phase où elle se dit, Dieu va faire. Parce qu'elle croit en ce Dieu-là. Et nous devons arriver à ce stade où Dieu veut mettre en nous ce grain de foi qui dit à cette montagne, déplace-toi. Qui dit au doute, qui dit à la peur, écarte-toi. Elle ne dit rien autour d'elle et elle s'en va. Vous savez, dans les situations difficiles, même quand on se retrouve seul, Dieu n'est jamais trop loin. Il est toujours là, à côté de nous. Je suis le même hier, aujourd'hui, parce que Dieu sait. Dieu voit et Dieu entend. N'oubliez pas ces trois choses-là. Dieu sait, il voit, il entend. N'est-ce pas? Et Dieu dit souvent, par la bouche de ses serviteurs, « Crois seulement. » Deux mots. « Crois seulement. » Deux mots qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Tout va bien. Et même l'homme de Dieu ne l'avait pas vu venir. Tout n'allait pas forcément bien. Et l'amertume contenue chez la Tsunamite se transforme en colère quand elle arrive devant Élisée. Là, elle explose. Parce que je ne t'avais rien demandé. N'est-ce pas? Je t'avais bien dit. Je t'avais même supplié. Je ne veux pas. Ne me fais pas de la peine. Et voilà le résultat. Un homme averti, je ne sais pas pour combien, une femme. Mais la femme éclate, elle laisse éclater plutôt sa colère, et puis au dépourvu, Élisée, je ne vais pas m'arrêter à tout ce qui est dit dans le texte, on n'aura pas le temps. Mais Élisée dit à son marathonien là, et Géasi, parce qu'il aimait courir, prends mon bâton et dépêche-toi, fais les 30 km là. Et pose mon bâton sur le visage de l'enfant et ne salue personne en chemin. Vous savez, nos salutations là, c'est pas tchoup tchoup et puis Non, il faut demander des nouvelles du mari, de l'enfant, du chien, du chat. Ça prend 30 minutes. Et s'il rencontre 10 personnes en chemin. Mais il dit, ne salue personne en chemin. Et on voit la déception plus tard chez Géasi. Ah, il aurait été trop content, Géasi, s'il avait, avec le bâton, réussi. Et c'est là que je dis souvent que l'orgueil monte chez nous. J'ai tel don, ou telle personne a tel don, va le voir. Il va prier pour toi, ça va marcher. Ça peut marcher là et ça ne marche pas là. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas qu'une manière de procéder. Ce n'est ni celui qui court, ni celui qui veut, mais c'est Dieu. Dieu n'a pas qu'une manière de fonctionner. Il est Dieu. Il n'a eu besoin de rien pour créer la terre et les cieux au départ. Ex nihilo, Dieu, à partir de rien, a tout créé. Donc vous pensez bien qu'il n'a pas besoin d'un bâton pour faire revenir à la vie. Jésus a juste dit à Lazare, Lazare sort. Heureusement qu'il avait dit Lazare, autrement il aurait vidé le cimetière. Dieu n'a pas qu'une manière de fonctionner et nous devons prendre conscience de ça. Ce n'est pas parce que là tu as été guéri que je serai guéri pareil. Si Dieu veut que tu meurs, tu mourras. Mes amis, ce que je vous dis là, je suis passé par là. Dieu dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai vu mon épouse mourir en un mois et demi, frappée par un virus. On a prié, on a jeûné, on a fait onction d'huile, chimio, tout ce que vous voulez, elle est partie. Et Dieu nous invite à croire et à rester fermement attachés. La Tsunamite n'a pas changé de vision quant à l'homme de Dieu. Tu es bien l'homme de Dieu et à moins que tu ne viennes avec moi, je ne bouge pas d'ici. Ça vous rappelle quelqu'un? Jacob. Jacob, dans sa lutte avec l'Éternel, dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Et parfois, la prière persévérante, persécutante, c'est ça. Dire, Seigneur, je veux. tout en restant calme et respectueux, bien sûr. Mais le Seigneur Dieu est grand, il est victorieux. Et Élisée, obligé de se déplacer, arrive sur les lieux du drame, fait sortir tout le monde. Et je mis en parenthèse, heureusement qu'il avait fait sortir tout le monde, parce qu'on l'aurait traité de pédophile. Hein? Oui? Qu'est-ce qu'il fait? Il met la bouche sur la bouche de l'enfant, les yeux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet homme? Ne me demandez pas d'explication, je ne sais pas. Mais Dieu fonctionne comme il veut. N'est-ce pas? Et il n'a même pas besoin de la présence de la mère. Parfois, une tierce personne peut gêner le fonctionnement d'une guérison. Ça panique, ça crie, ça touche. Il fait sortir tout le monde. Et avec l'aide du Seigneur, l'enfant éternue cette fois, ne demandez pas non plus pourquoi, et l'enfant revient à la vie. Vous avez observé que la fin de l'histoire se termine bizarrement, de manière abrupte. Élisée remet à la femme son fils, elle sortit. Pas de place ici pour le deuil, pour les cris, pour la joie, parce qu'il ne s'était rien passé. Elle n'avait pas crié à l'aide au départ. Je ne vois pas pourquoi il va crier et ressusciter à l'arrivée. Vous me suivez? Alors, que retirer de cette histoire? Si tu traverses un moment difficile que tu trouves long, ne doute pas, crois seulement. Crois que Dieu est capable de te délibérer, de te libérer, de te délivrer. Regarde à Jésus, dis-lui tout. Et il peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. La Bible dit, il est bon de chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel, cherchez ma face. Et singulièrement, lorsque tu traverses la vallée du Baca, la vallée des pleurs, la vallée de la souffrance, l'Éternel est là aussi. Souvenez-vous d'Agar. Agar, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a de l'eau là. Tout est à portée de main. Troisièmement, nous devons apprendre à nous désolidariser du mal ou de la souffrance qui nous accable au quotidien pour porter nos regards sur le rocher. Christ, c'est de là que nous avons été taillés. Ésaïe 51. Porte le regard sur le rocher. Ne quitte pas Jésus du regard. C'est lui le chef de la foi. Et il dit, crois seulement et tu verras. Quatrièmement, prions que Dieu nous donne l'esprit de discernement, bien-aimé, pour voir, pour comprendre, afin d'aider, accompagner nos bien-aimés en difficulté. Prions que Dieu nous donne l'esprit d'hospitalité, le don de l'hospitalité, nous ne savons pas. Hébreux chapitre 13, verset 2, cinquièmement dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Hébreux 13, verset 2. Quelques-uns, en l'exerçant, ont logé des anges. Qui sait si un jour tu n'as pas logé un ange? Qui sait si un jour tu ne vas pas loger un ange? Dieu est capable de nous surprendre parce qu'il est le même et il n'a pas changé et il ne changera pas. Je peux changer. J'ai déjà changé. Je changerai peut-être encore. Mais Dieu ne change pas. Prions que Dieu nous aide à grandir et à développer, laisser Dieu développer notre foi. Consolider notre foi. Parce qu'on n'a pas besoin d'une grande foi, d'une grosse foi. Comme un grain de sénévé. Qui nous rassure, qui nous porte et qui nous transporte au-delà même des montagnes. Parce que Dieu ne peut nous tenter au-delà de nos forces. Amen. Amen. Dieu nous aide.
Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur pour ton message et merci pour